Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry. Ceci est le 79e épisode. Dans cet épisode, je vous pose la question: où se situe l'intensité de votre BDSM sur une échelle de 0 à 10? Je précise, là je parle du BDSM tel qu'on le pratique. Je veux pas parler des fantasmes parce que évidemment, quand on est dans la fantaisie, dans le fantasme, dans le délire entre guillemets, on peut aller à des extrêmes qui vont bien au-delà de la réalité. Donc dans cet épisode, je me restreins à la réalité et le concret. Première partie, pourquoi cet épisode? Alors en fait, contrairement à d'habitude, il n'y a pas réellement eu un déclencheur. Souvent quand j'écris des articles et presque toujours quand j'enregistre des podcasts, il y a quelque chose qui est un déclencheur. Quelque chose que j'ai lu dans un article, sur un forum, quelque chose que j'ai entendu dans un podcast, sur une vidéo YouTube, ce genre de choses. Là, cette fois-ci, c'est pas le cas. En fait, je saurais pas vous dire exactement le déclencheur exact. C'est un ensemble d'événements pendant que j'étais en train de lire des choses, de réfléchir à différentes choses pour d'autres épisodes. Soudain, ça m'est venu à l'idée, cette question de parler de l'intensité et aussi d'en parler donc dans une sorte d'échange un peu pseudo-interactif parce que évidemment, avec un format podcast, je peux pas interagir avec vous, malheureusement. Mais je voulais vraiment poser la question et pas juste présenter un certain nombre d'idées, de définitions, de mythes, etc., comme je le fais d'habitude. Donc voilà, récemment, j'ai vu passer un certain nombre de choses, notamment dans les délires sur les alpha, bêta, etc., qui seront le sujet de l'épisode suivant, et tout ça a fini par m'amener à me dire ce serait peut-être pas mal d'en discuter un petit peu de ces problèmes d'intensité, de ces problèmes qui reviennent un peu toujours à la même chose, hein. C'est le vrai BDSM, celui qu'on va vous opposer si vous, vos goûts sont un petit peu, entre guillemets, légers, ponctuels, que le BDSM vous aime, mais vous en faites que de temps en temps, que vous n'êtes pas forcément à fond, que vous ne faites pas des choses complètement intenses, voire complètement folles, comme ce qu'on essaye de vous vendre un peu trop souvent, hein. J'en ai déjà parlé dans plein d'épisodes précédents. Et je pense, le dernier point qui m'a amené à me poser cette question, à vous la poser en fait, vient aussi de ce que je suis en train de rédiger en ce moment, qui sont les aventures de Natacha dans le milieu du travail du sexe BDSM. Au moment où j'enregistre cet épisode, il y a déjà 3 histoires qui sont présentées sur mon site, dans la rubrique histoire, et alors que je pose par écrit plein d'idées, évidemment je présente un certain nombre d'événements BDSM qui arrivent à mon héroïne, et dans ces événements il y en a qui sont extrêmement intenses, ce qui m'a aussi certainement poussé dans cette direction de me poser des questions sur l'intensité des choses. Qu'est-ce que font vraiment les gens? Alors je le sais, hein, mais là je vais vous poser la question par rapport à des histoires ou à des histoires très proches de la réalité, ce qui est le cas des aventures de Natacha, mais c'est un autre sujet. Donc cet épisode, il est plus là pour vous donner quelques pistes de réflexion, histoire de vous inciter peut-être, pour utiliser un grand mot, à faire une introspection sur qu'est-ce que vraiment c'est pour vous votre BDSM et son intensité. Personnellement, vous l'aurez peut-être déjà perçu si vous avez écouté d'autres épisodes, je pense vraiment que c'est important de prendre un peu de recul, même beaucoup de recul, de réfléchir un minimum à ce qu'on fait, et évidemment à ce qu'on voudrait faire. Ça peut aider, et notamment ça peut aider donc à prendre du recul, à relativiser les choses, à dédramatiser si c'est nécessaire, parce que c'est toujours difficile d'aborder un certain nombre de sujets BDSM. Je reçois régulièrement des témoignages de personnes qui me disent voilà, j'avais des hésitations, des peurs sur ci, sur ça, ah là là, le bondage, j'avais peur, ah là là, le SM, j'avais peur, ah là là, ceci, cela, ce qui est parfaitement normal. Et même si on s'y est déjà mis au BDSM, on peut encore avoir des doutes et des hésitations. Donc c'est bien de prendre un peu de recul et puis de relativiser les choses. C'est toujours ce que je dis, hein, faut relativiser tout ça. Comme j'aime à le dire, le BDSM, faut pas s'en faire toute une montagne, j'ai même dédié un épisode à ça, c'était l'épisode numéro 60. Et je pense aussi que pour tout ce qui est les pratiques avec une partenaire, et plus encore dans le contexte des rencontres, ça peut être bien comme ça d'avoir fait une sorte de topo, le point en fait, sur ce qui vous plaît vraiment, éventuellement même sous forme de liste, hein, c'est ce que je recommande pour les rencontres, pour pouvoir ensuite ne pas oublier les choses quand on les présente à quelqu'un, et puis pouvoir les échanger plus aisément quand même, parce qu'au début, bien sûr, bon, je vous le redis à tout hasard, mais quand on est en train de draguer, vaut mieux éviter de immédiatement lancer au visage de quelqu'un je veux faire ci, je veux faire ça, je voudrais faire ceci, je voudrais tester cela. Ça allait un peu trop vite en besogne. Cela dit, quand on a commencé à discuter et à essayer de voir quels sont les points communs, ça peut être un peu intéressant quand même, pour moi, ça peut être même très intéressant, de pouvoir donner au moins un certain nombre d'éléments et les avoir écrits, ça évite de les oublier au dernier moment. Mais savoir ce qu'on veut faire, c'est bien. Savoir avec quelle intensité, quelle fréquence, etc., c'est encore mieux, parce que ça change tout. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, par exemple, qui aime bien une petite fessée, c'est pas la même chose que rencontrer, évidemment, quelqu'un pour qui c'est pas suffisant une fessée et qui voudrait du fouet avec 100 coups de fouet, ce qui n'a rien à voir avec la petite fessée que font beaucoup de personnes, évidemment. Donc vraiment, l'intensité, c'est un sujet intéressant, en fait, et ça peut être utile pour échanger, tout simplement. Donc pourquoi ne pas en parler ? C'est le sujet de cet épisode. Alors quand même, un petit avertissement, comme pour beaucoup d'épisodes et de choses que je dis, faut pas prendre tout ça trop au sérieux, bien sûr. Le BDSM, c'est pas une compétition, tout à l'heure je vais vous présenter ce que moi j'estime être mon intensité, entre guillemets, mais le but c'est pas de se comparer, de dire que telle intensité c'est mieux, c'est pas le concours de celui ou celle qui en fera de façon la plus intense, hein. L'objectif c'est pas l'intensité, l'objectif c'est d'atteindre ce qui vous plaît, ce qui vous donne la meilleure satisfaction. Donc je me répète, hein, c'est vraiment un important, n'en faisons surtout pas une compétition, ce serait vraiment totalement passer à côté de l'idée sous-jacente, hein. On est bien d'accord. Deuxième partie, ma modeste proposition d'une échelle d'intensité allant de 0 à 10 avec des exemples. Alors attention, soyons bien clairs, je viens de le dire il y a un instant, tout ça faut pas le prendre trop au sérieux, hein, on est d'accord. Vouloir donner des chiffres, mettre des valeurs sur les intensités, c'est toujours un peu tendancieux, douteux et difficile, hein. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est très arbitraire, très subjectif aussi. Donc tout ça, ce sont des grandes idées qu'il faut pas prendre trop au sérieux, hein, on est d'accord. Par exemple, si vous n'êtes pas d'accord entre une pratique que je mettrais dans la catégorie intensité 1 par rapport à intensité 2, moi je ne poserai pas de questions à ce niveau-là, c'est pas grave, la différence est minime. C'est juste pour permettre d'avoir une base de raisonnement, mais faut pas la prendre trop au sérieux. Alors un autre point important auquel vous aurez peut-être pensé, c'est que donner une échelle, ça pose un problème, c'est que même pour une activité BDSM précise, vous pouvez en faire à plein d'intensités différentes, évidemment. Prenons même une simple fessée, vous pouvez y aller d'une façon tellement légère que c'est symbolique, vous pouvez y aller déjà plus fort, et quand on s'y connaît, on peut faire vraiment mal, hein. Ça peut aller à une intensité qui est surprenante. Donc même quand je donne des exemples, ce seront des exemples dans lesquels est sous-entendu avec une certaine force qui peut varier, hein, donc en fonction du contexte, évidemment. En résumé, clairement, personne ne fait tout toujours de la même façon, toujours avec la même intensité, ça varie forcément. Enfin, un dernier point qui me paraît important, il y a quand même certaines activités qui par définition sont en elles-mêmes plus risquées ou plus intenses que d'autres. Donc certaines pratiques sont de façon naturelle placées relativement haut dans mon échelle d'intensité et on peut pas vraiment, enfin à mon avis en tout cas, les placer à n'importe quel niveau en disant je le fais de façon légère ou je le fais de façon intense. Mais globalement, la plupart des choses, on peut quand même fortement varier l'intensité, hein. Donc quand je vais présenter mes exemples, je vais toujours préciser, c'est léger, c'est moyennement fort ou c'est très fort pour résoudre ce petit problème. Je vous donne un exemple évident, le marquage au fer rouge. C'est vrai, on peut le faire de façon plus ou moins forte avec un fer plus ou moins gros par exemple, mais quand même, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça de façon anodine, c'est pas une petite tape sur les fesses tranquille. Vous voyez, là l'intensité même pour quelque chose de relativement minime entre guillemets, enfin c'est une façon de parler vu ce que c'est, vous voyez, ça peut pas être vraiment quelque chose qu'on juge comme étant léger ou anodin, évidemment. Je prends cet exemple parce que c'est dans mon esprit le meilleur exemple. Alors, comment est-ce que j'envisage cette échelle ? Un peu arbitraire, on est d'accord. Je vais vous donner des valeurs uniquement pour les chiffres impairs pour éviter de tomber dans trop de nuances, trop de valeurs différentes. Le premier niveau, évidemment, c'est le niveau 0. Donc là, c'est ce que j'estime être tellement non intense que, franchement, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème, c'est anodin. Dans ça, je placerai par exemple mettre un bandeau, ou bien mettre un masque de base, hein, ou des déguisements simples, hein, bien entendu. Vous voyez, toutes ces choses sont parfaitement basiques et accessibles absolument à tout le monde. Dans le niveau 1, je placerai par exemple du pet play simple. Je vous rappelle, le pet play, c'est quand une personne joue le rôle, imite un animal, typiquement un chat, un chien. Ça peut aller de choses très simples où on met un petit collier, une laisse et puis on fait waf waf ou miaou. Mais évidemment, comme par exemple les déguisements dont je vais parler tout de suite, ça peut aussi devenir des choses plus sophistiquées. Dans ce cas-là, évidemment, le numéro d'intensité sera plus élevé. Mais je pense que du pet play de base, par exemple, sera un bon exemple d'une pratique qui est pas très intense. Dans le même ordre d'idées, sans que ce soit du pet play, vous avez l'utilisation ultra classique du collier, éventuellement de la laisse. Éventuellement, je mettrai aussi les mots crus, alors avec une nuance très importante, puisque vous vous rappellerez peut-être mon épisode précédent, le 78, dans lequel j'avertissais contre les risques de malentendus et de dérapage de l'humiliation verbale. Cela dit, en soi, des mots crus assez simples, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose de basique et qui ne crée pas de problème. Le souci, je l'avais expliqué hein, dans cet épisode précédent, c'est que certains de ces mots peuvent créer des problèmes, ils n'ont pas tous les mêmes sous-entendus, les mêmes implications, mais je pense que des mots de base du genre « vas-y gros porc », ce genre de choses, devraient être jugés comme étant pas très intenses. Je saute directement au niveau 3, et là je placerai par exemple une fessée légère. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce genre de choses ça peut être très léger, intense, très intense. Je pense que, à part la fessée vraiment super symbolique, que vous pourriez mettre au niveau 1 ou au niveau 2, une petite fessée, ce que feront un très grand nombre de personnes en fait, hein, où on n'appuie pas énormément les coups, devrait être au niveau 3. Je pense aussi qu'on peut mettre dans ce niveau-là, attacher quelqu'un sur le lit avec des petites menottes, vous voyez, des menottes qui sont doublées en fourrure, en fausse fourrure, en peluche, ce genre de choses. J'y mettrai aussi des choses comme les déguisements ou des masques, mais un petit peu plus sophistiquées que des choses basiques qu'on mettrait au niveau 0 par exemple. Pour le niveau 5, je commence évidemment par des fessées, mais cette fois plus intenses. Vous voyez, là on commence à faire vraiment la fessée. C'est un peu ce à quoi on s'attend en fait, hein, quand on regarde des pornos par exemple. À tort, parce que rien n'oblige à faire ce genre de choses de façon intense. Ensuite, je pense qu'on peut dans cette catégorie aussi mettre du bondage, mais cette fois évidemment donc des attaches un peu plus intenses ou plus sur la durée, avec peut-être plus de liens ou des positions un petit peu plus difficiles par exemple. Typiquement, hein, le bondage de base où on est juste allongé ou allongé sur le lit, c'est assez simple, mais on peut par exemple replier les jambes, ce genre de choses, et ça devient assez vite plus difficile. Je pense qu'on peut aussi ajouter le fouet, modéré, hein, j'entends évidemment. Comme pour la fessée, il y a des fouets de toutes sortes qui existent, et il y en a qui sont pas très très douloureux à l'usage, surtout si on frappe pas de façon excessive. Je mettrai aussi tout ce qui est jeu de rôle, alors ça inclut des déguisements, masques, etc., des façons de se comporter, qui seraient un peu plus sophistiquées, c'est-à-dire au niveau 0, vous vous contenterez d'un masque, par exemple, un masque médical de base, alors que là, on pourrait parler, par exemple, d'un masque qui a été acheté dans un magasin spécialisé, que ce soit un magasin de type sex shop, ou tout simplement des magasins qui vendent des accessoires pour les fêtes de Noël, Halloween et ce genre de choses. Enfin, dans cette catégorie, je pense que je mettrai un certain nombre de choses qui sont taboues, avec une certaine nuance. Par exemple, je pensais au race play, les jeux de race, dont j'avais parlé dans mon épisode numéro 52, dans lequel je décrivais les problèmes potentiels hein, des jeux dits de race. Cela dit, ce genre de choses, ça dépend de la façon dont les personnes qui pratiquent l'envisagent. Donc, à mon avis, c'est quand même un sujet sensible, donc je pense pas que ce soit raisonnable de le mettre à un niveau inférieur, vous voyez. Maintenant, je l'expliquais tout à l'heure pour plein d'autres pratiques. Là aussi, on va avoir plusieurs niveaux, donc là, ça pourrait être des choses relativement soft, entre guillemets, relativement douces, et après, on peut passer à des choses beaucoup plus importantes, des jeux de rôle où on fait des choses que je vais pas décrire ici, mais imaginez tous les trucs racistes possibles, et ça vous donnera une bonne idée. Si ce thème ne vous parle pas, je vous recommande vraiment d'écouter mon épisode 52, ça vous expliquera exactement pourquoi ça existe et les problèmes éventuels que ça pose. Je passe maintenant au niveau 7, alors là on est déjà très haut dans l'échelle, j'y vois des choses du genre du fouet déjà intense, le genre de choses qui ne serait pas supportable, vous voyez, pour une personne entre guillemets normale, quelqu'un qui n'est pas entraîné, quelqu'un qui n'est pas, comme on dit, dans le BDSM et dans le SM en particulier. Donc je donnais l'exemple du fouet, mais ça pourrait être tout autre objet qui est utilisé pour ce qu'on appelle des jeux d'impact. Vous avez aussi le bondage, hein, je l'ai dit tout à l'heure, le bondage, à la base, ça peut être vraiment très léger, mais ça peut devenir beaucoup moins léger, avec des positions plus difficiles, beaucoup de liens, ou des liens qui sont plus serrés, etc. Ça peut devenir assez vite quelque chose d'assez sérieux, si on s'y met vraiment. Évidemment, j'ai aussi tout ce qui est les jeux de rôle, etc., plus sophistiqués, les déguisements sophistiqués, bref, le genre de choses où on a investi du temps, éventuellement de l'argent. Enfin, à partir de ce niveau 7, je voudrais ajouter certaines activités qui sont risquées en elles-mêmes. Il y a des activités comme la fessée par exemple, où vraiment vous avez un continuum qui va du plus léger où c'est totalement symbolique, à des choses déjà assez intenses. Mais vous avez des pratiques qui sont carrément dangereuses en elles-mêmes, c'est-à-dire une gaffe peut avoir des vraies conséquences. Je vous donne un exemple, c'est ce qu'on appelle le fire play, les jeux de flammes, les jeux avec du feu. Alors ça, c'est carrément risqué, hein. Il y a eu des accidents, j'ai déjà lu des choses très déplaisantes, donc je pense que ce genre d'activité n'est jamais vraiment anodine. Sauf peut-être si on fait semblant, et là, ça devient symbolique, mais quand les personnes qui font du BDSM parlent de ce genre de choses, en général, on parle de vraiment faire des choses du genre mettre du feu sur une personne, hein, par exemple, et là, la moindre erreur, ça peut être catastrophique. Vous n'avez pas de mal à l'imaginer, même si vous n'avez jamais vu des exemples. Donc vous voyez un certain nombre comme ça d'activités qui, en elles-mêmes, ont un risque qui, à mon avis, est impossible à baisser, je les catégorise assez haut. Enfin, je vais en arriver directement au niveau 10. Alors là, c'est très simple, hein, vous placez tout ce qui est très intense, voire extrême, du fouet vraiment fort, des choses qui sont faites aussi sur la durée, pour du bondage, ça pourrait être des positions vraiment qui sont difficiles à tenir. Et évidemment, toutes les choses risquées, faites de façon intense. Je viens de parler du fear play, hein, y a plein de façons de le faire. Il y a des choses qui sont super dangereuses. Elles seront catégorisées dans la catégorie 10 de façon naturelle. C'est là aussi que, à mon avis, on devrait placer des choses du genre le fer rouge. On aurait pu le mettre peut-être au niveau 8 ou 9, mais je vais le mettre dans les catégories extrêmes, parce que c'est quelque chose qui est rare, hein. Soyons bien clairs, on en parle beaucoup plus qu'il n'y a de personnes qui en font, parce que c'est très risqué à faire. On peut se rater et là, on peut pas revenir en arrière. C'est dangereux pour s'en remettre, s'en guérir, ça reste très longtemps, enfin, vous avez aucun mal à comprendre pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas anodin. C'est vraiment le bon exemple de chose qui n'est pas anodine. Donc, moi, je la catégorise au niveau 10, mais n'oubliez pas, je l'avais dit tout à l'heure, tout ça, c'est quand même, pour une partie, une question hein, de jugement personnel, et ça peut être très subjectif. Notamment parce qu'il y a des personnes, par exemple, si je prends le cas du SM, le sadomasochisme, il y a des personnes qui riront de coups qu'une personne entre guillemets normal trouverait déjà absolument insupportable. Donc il y a un côté très très relatif et subjectif, évidemment. Mais voilà, je voulais vous donner quelques exemples pour vous donner ma conception, qui sera peut-être un petit peu différente de la vôtre, mais ça vous donne une idée générale de comment on pourrait établir une échelle comme ça allant de 0 à 10. De façon naturelle, vous vous en doutez, plus on augmente dans cette échelle d'intensité, moins le nombre de personnes qui les font, hein, qui les font vraiment, je veux dire, je parle pas des fantasmes là, ce nombre diminue très vite. Hein. Je pense, alors c'est impossible à vraiment vérifier, mais je pense qu'on peut dire que les niveaux 0, 1, on va trouver à peu près tout le monde qui fait des choses dans ces niveaux-là, ça va à mon avis commencer à diminuer à partir du niveau 3 surtout. C'est-à-dire entre le 3 et 5 déjà, vous allez avoir nettement moins de personnes, et au-delà du 5, je pense que le nombre de personnes qui peuvent, qui veulent le faire, diminue très fortement. Quant au dernier niveau, 8, 9 et surtout 10, c'est simple, là ça va être une minorité tellement infime que ça va être dérisoire. Hein. Quand vous arrivez au niveau 10, franchement, je crois qu'on peut parler de quelques poignées de personnes. Mais ça existe, je préfère quand même le redire pour être bien clair, ça existe. J'en ai rencontré, j'en ai vu des exemples sur des photos, des vidéos, etc. Y compris des choses privées, hein, je veux dire, pas des choses faites par les pros. Des gens comme ça, ça existe, mais vous en croisez pas toutes les 5 minutes, même lors de réunions BDSM. Hein. Franchement, de façon naturelle, comme pour tout d'ailleurs, toute activité comme ça où ça devient vraiment intense, où on s'y met à fond, le nombre de personnes qui est tout à droite de la courbe est extrêmement faible. C'est normal, c'est comme pour tout de toute façon. Troisième partie, moi et vous. Je vais commencer par vous expliquer comment moi je vois les choses et quelle est mon échelle personnelle, quel est le maximum que je fais en fait. De façon assez brève, c'est juste pour donner une illustration, mais aussi parce que je pense que ce que je vais vous dire va vous surprendre. Alors en fait, si moi on me pose la question et qu'on me demande Larry, où se situe l'intensité de ton BDSM sur une échelle de 0 à 10, ma réponse va être évidemment, ça commence à 0 parce que je fais pas tout au maximum bien entendu, et les choses maximales, les choses les plus intenses que je fais, de façon assez régulière, se situe entre 6 et 7, je dirais. Avec, je pense qu'on peut dire, des pointes à 8 pour certaines choses précises de temps en temps. Alors, est-ce que ça vous surprend que je dise ça? Vous vous attendiez peut-être à ce que je dise que moi, oh oui, évidemment, je fais du 8, oh, du 9, du 10 même peut-être. Bah, vous voyez, non. Non, non, pas du tout. Et pourtant, mon BDSM, j'en suis très content. Je l'avais dit tout à l'heure, hein, tout ça, c'est pas un concours. Ce qui compte, c'est la satisfaction qu'on trouve dans ce qu'on fait. Personnellement, je trouve une bonne satisfaction entre 0 et 6, 7, dans certains cas 8, et j'ai pas vraiment d'occasion ou d'envie d'aller plus loin, sauf éventuellement peut-être pour une ou deux choses ponctuelles, mais ce serait très ponctuel. Évidemment, ma réponse, elle peut être un peu surprenante quand même, parce que si vous connaissez un tout petit peu mon profil, vous savez que je suis à fond dans le BDSM, forcément, sinon je ferais pas un podcast, je ferais pas un site internet sur le BDSM. Donc de façon assez naturelle, quand on y réfléchit pas trop en tout cas, on voit quelqu'un comme ça, on se dit, ah voilà, probablement un exemple justement hein, de quelqu'un, puisqu'il est à fond dedans, forcément il va être dans les niveaux les plus élevés, il va faire des choses intenses. Mais en fait, c'est totalement faux, et je ne suis que un exemple parmi des milliers d'exemples. C'est pas parce qu'on en fait beaucoup, qu'on est à fond, qu'on est passionné, entre guillemets, par ça, qu'on a forcément envie de le faire de façon super intense. Même si là, hein, je parle pas du fait que tout le monde fait aussi des choses, à un moment ou à un autre, qui sont pas hyper intenses, parce qu'on part pas directement dans des coups, avec des fouets faits avec des fils barbelés, etc. Hein. Presque tout le monde aura aussi des pratiques, pas forcément les mêmes d'ailleurs, qui sont nettement moins intenses. Mais si je me concentre sur les pratiques les plus intenses, à chaque personne, le type de pratique et le type d'intensité qui leur plaît le plus, et au partenaire, hein, bien entendu, c'est sous-entendu à chaque fois, hein, bien sûr. Et non, il n'y a pas besoin, hein, il n'y a pas besoin d'aller au maximum pour trouver quelque chose qui est super. Si on parle pas de BDSM, ça va être beaucoup plus clair. Prenons par exemple des personnes qui sont passionnées par aller au cinéma, par exemple. Eh bien, vous avez des gens qui sont passionnés par le cinéma, ça veut pas dire pour autant qu'ils y passent 100% de leur temps. Vous avez des gens qui y passent l'essentiel de leur temps, c'est-à-dire dès qu'ils ont un moment libre, ils y vont, bref, qui sont à fond dedans. Mais on peut trouver une énorme satisfaction sans aller dans des extrêmes. C'est évidemment pareil pour le BDSM. Et quand on y réfléchit, ça a totalement du sens. C'est pas surprenant en réalité. Alors, si vous me connaissez un petit peu, c'est-à-dire que vous avez écouté mes épisodes précédents ou lu mes articles, vous vous seriez probablement déjà douté de ce que j'allais répondre. Parce que dedans, à un bon nombre de reprises, vous m'aurez entendu ou lu relativiser fortement le BDSM, dire que c'est un continuum, remettre les choses à leur place et dire que non, il n'y a pas que des gens qui sont à fond dedans, comme moi, et même dans les gens qui sont à fond dedans, il y a un continuum. Tout ça, je l'avais déjà exprimé souvent avant. Hein. Donc en fait, vous auriez déjà pu vous en douter si vous m'avez écouté dans de précédents épisodes, et surtout si vous avez lu mes articles. Des personnes qui sont bien plus à fond, entre guillemets, du point de vue intensité, j'en ai croisé, j'ai aussi croisé des personnes qui font du BDSM depuis plus longtemps que moi, bien sûr, mais moi j'ai mon niveau qui me convient, de confort, entre guillemets, qui va donc de 0 à 7, voire 8, et ça me convient très bien. Maintenant, évidemment, voici la question. Qu'est-ce qu'il en est de vous? Qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Malheureusement, sous un format podcast, vous pouvez pas me répondre, ça sera un tout petit peu difficile. Mais ce que je voulais souligner dans cet épisode, c'est que je voulais comme ça un peu vous suggérer d'y penser, si c'est pas le cas, parce qu'il y a des chances hein, que vous y ayez déjà pensé à ce genre de choses. Mais si vous faites, par exemple, pas depuis si longtemps que ça des activités de type BDSM, peut-être que vous avez pas encore de recul, que vous y avez pas pensé tout simplement, hein, que vous avez pas fait le point sur ce genre de choses. Et donc vous le savez probablement implicitement, vous savez que vous aimez plutôt ce genre de choses, un peu fort, un peu moins fort, très léger, symbolique uniquement, au secours. Et comme j'avais dit tout à l'heure, je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir un petit peu, sans y passer non plus des jours et des jours, bien entendu, mais je pense que c'est bon de prendre du recul, je l'avais dit tout à l'heure, et je pense que ça peut aussi être utile, hein, je l'avais dit, pour par exemple échanger avec d'autres personnes, surtout dans le cadre de rendez-vous, de rencontres. C'est quand même intéressant de savoir à peu près quel genre de choses vous attendez-vous, parce que la personne en face, si vous n'êtes pas capable de lui dire « Oui, moi, je suis plutôt... dans le fouet léger, ou au contraire, je fais de l'estime, électrostimulation, de façon très intense, c'est plus difficile de se comprendre si on n'est pas capable de mettre des mots, ou dans ce cas-là, des valeurs, même si elles sont un peu arbitraires, sur les choses. Pouvoir comme ça dire « Ah oui, moi j'aime ça, ou ça, de telle et telle intensité », ça peut sérieusement, à mon avis, aider et éviter les déboires, hein, parce que si vous partez sur l'idée que vous voulez faire du bondage super hardcore et tout, et que la personne en face dit « Ouais, j'adore le bondage, mais pour cette personne-là, ça consiste à être attaché sur le lit avec quatre petites menottes », il y a un gouffre dans vos conceptions. Ça peut être intéressant d'avoir pris du recul et d'avoir en tête « Attention, qu'est-ce que la personne en face, elle en pense ?» du point de vue intensité, histoire de minimiser les déceptions des deux côtés. Voilà, je vais vous laisser réfléchir à ça, je voulais juste un peu attirer votre attention sur ce sujet qui me paraît assez intéressant. Je me répète, hein, faut pas le prendre non plus trop au sérieux, et surtout, 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 ne le prenez pas comme étant un concours ou une compétition, hein. Vous voyez, moi par exemple, je vous ai dit clairement que ce qui me plaît c'est tel niveau, et je ne me compare pas aux autres, je suis intéressé par éventuellement connaître leur propre conception sur le sujet, mais j'en fais surtout pas un concours, surtout pas. Ce qui compte, je l'ai déjà dit plein de fois, je l'ai dit dans cet épisode et dans d'autres, ce qui compte c'est ce qui vous plaît, et ce qui plaît bien entendu aussi à votre partenaire. Si tout ce que j'ai présenté dans cet épisode vous fait penser à différentes choses, vous amène à différentes réflexions intéressantes que vous voulez partager, je vous engage, si on est sur YouTube par exemple, à les mettre dans les commentaires. Et si vous écoutez ce podcast ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire, je suis toujours intéressé quand j'ai des témoignages, des réflexions, des remarques, des idées sur des sujets que j'ai lancés. Ce sera pas vraiment interactif, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que le podcast, c'est vraiment le format non interactif. Mais n'hésitez pas quand même, hein, si vous avez des choses à dire, à me faire des retours. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des idées d'articles pour mon site ou pour des épisodes de podcast, vous pouvez me joindre en allant sur mon site univers-bdsm.info. Dans la rubrique Contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Et vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.